début de juin 40, où nous sommes arrivés, quelle est la situation militaire en France? La catastrophe, hein? Vous savez sans doute ce qui s'était passé, Hitler avait été extrêmement ingénieux dans son plan. Était-ce lui, était-ce les généraux? Toujours est-il qu'après avoir enfoncé le front français sur Sedan, au lieu de marcher sur Paris, ce qui avait donné l'épouvante aux Parisiens, en particulier Reynaud avait cru que ça y était, que Paris ne pouvait pas être défendu, on avait vu soudain les armées allemandes obliquer vers l'ouest. On n'avait pas compris d'abord pourquoi, puis on s'est aperçu que l'idée était extrêmement diabolique, étant donné que les forces françaises avaient pivoté à partir de Sedan, quoi, jusqu'à Dunkerque, pour entrer sur le territoire belge, puisque les Belges étaient envahis, étant donné aussi que des renforts anglais étaient arrivés sur le territoire belge et très nombreux, la grande idée, Hitler, c'était ceci, je vais marcher dans la direction de la Manche et je vais fermer une nasse sur cette armée française, belge, anglaise, et vous savez que ça avait abouti au désastre de Dunkerque. Alors, le malheureux Végan qui succédait à Gamelin avait prétendu qu'il allait modifier les plans de Gamelin qui ne s'y connaissait pas. Et en fait, il n'avait rien modifié du tout parce que Gamelin avait pris les dispositions qu'on pouvait prendre, étant donné la situation presque désespérée des armées françaises. On avait donc décidé de tenter d'arrêter les Allemands sur une ligne de la Somme et de l'Aisne, parce qu'on pensait bien qu'après avoir réalisé le coup qu'ils avaient réalisé à Dunkerque, ils allaient maintenant marcher sur Paris. Personne n'avait d'espoir quant à la résistance française sur cette ligne de la Somme et de l'Aisne. Effectivement, malgré les combats courageux, au bout de 48 heures, c'était la débâcle. Il y avait, je le répète, des gens qui se sont bien battus, mais il y en avait beaucoup d'autres qui ne voulaient pas se battre, nous le savons déjà, et qui refluaient en désordre vers l'arrière, le plus loin possible, des officiers qui emmenaient même leurs femmes. Alors Végan là-dedans, Végan se tenait coude à coude avec Pétain, acharné à cette préoccupation, à cette réclamation immédiate d'une armistice, d'un armistice. Quel était leur argument? Ben, il disait, mais il faut garder tout de même un petit noyau d'armée française, comme en 1918 les Allemands avaient été autorisés à le faire, et pour la même raison. En effet, je vous rappelle ce qui s'était passé en novembre 18, hein, il y avait déjà de grosses agitations intérieures en Allemagne, et ceux qui dirigeaient la politique française, c'est-à-dire Poincaré, c'est-à-dire Clemenceau, s'étaient dit, bon, c'est entendu, nous avons vaincu les Allemands, mais il faudrait tout de même pas qu'ils soient trop confrontés, qu'ils se retrouvent confrontés à l'intérieur avec une révolution communiste. Ça s'appelait à ce moment-là les Spartakistes en Allemagne. Alors avec une grande facilité, vous savez, sans problème, on avait, dans l'armistice de 1918, accordé 100 000 hommes, à la Wehrmacht. Et l'armée allemande n'était pas en dissolution comme était notre armée française en 1940. Alors la grande préoccupation apparente, je vais vous dire, de Végan et de Pétain, c'était de dire, en attendant, avant que la dissolution totale de l'armée française se produise, il faut que nous puissions obtenir des Allemands, ils vont certainement accepter, 130 000 ou 100 000 s'ils ne veulent pas plus, 100 000 hommes que nous pourrons grouper pour résister à un coup de force communiste. Car c'était la grande préoccupation, ou du moins la grande affirmation de Végan et de Pétain, les communistes vont tenter un coup. Je comprends très bien qu'au souvenir de 1871, ils aient pu se dire, il y a eu la Commune. Vous vous rappelez, enfin je me permets de vous rappeler les choses, lorsque la France avait été vaincue à Sedan et lorsqu'on avait capitulé en janvier 1971, une partie de la population parisienne, ou pas tous, une partie de cette population s'était indignée, il avait dit Paris a été livré, Paris a été trahi, si bien qu'il y avait une tentative de commune. Une commune, notez bien qu'il n'était pas communiste, hein, là-dedans il y avait très peu de marxisme, mais enfin c'était une commune populaire, quoi. Alors on pourrait admettre, je dis bien, on pourrait admettre que certains, par exemple peut-être Pétain, aient craint, qu'il se produise dans le désastre français de 1940, qu'il y ait quelque chose de semblable, et que le Parti communiste, enfin l'extrémisme de gauche, essaye une opération. Je n'y crois pas du tout. Tous les historiens qui se sont penchés sur l'affaire de 1940 estiment qu'il n'y avait aucune espérance à ce moment-là pour les communistes de faire un coup de force. Les communistes étaient, depuis le pacte germano-soviétique, très divisés. Il y en avait tout de même un certain nombre qui continuaient à essayer de considérer l'Allemagne comme le principal danger. Mais d'autres, très domestiqués par rapport à Moscou, disaient qu'il faut s'entendre avec l'Allemagne. Alors je ne vois pas pourquoi ils auraient fait un coup de force. Et matériellement, ils n'en avaient pas les moyens, parce que j'y étais, moi, dans cette France de 1940. J'ai vu ce que c'était, vous savez. Les gens étaient éperdus. Les gens ne pensaient qu'à leur sauvegarde personnelle. Hein. Je crois qu'on n'aurait jamais pu persuader qui que ce soit de faire une opération politique précise du côté des communistes, certainement pas. Alors je vais vous dire toute ma pensée. Quand Végan et quand Reynaud parlaient perpétuellement, quand Végan et Pétain parlaient perpétuellement de ce danger communiste, c'était pas seulement pour avoir les 100 000 hommes, mais c'était pour se donner un prétexte pour ce qu'ils allaient faire eux-mêmes. Quoi faire eux-mêmes? Vous le savez bien. Ils avaient l'intention de transformer radicalement la politique française et de substituer au fameux régime démocratique qui s'était déshonoré un régime de leur goût. Mais savez-vous que c'est une vieille parade, c'est une vieille habitude, ça, de prétendre que l'ennemi va faire un coup et que c'est un coup de parade que l'on fait. Quand je vous ai parlé du fameux, la fameuse cagoule, le CSAR, C-S-A-R, Comité Secret d'Action Révolutionnaire, dirigé par Delon, qui par du Seigneur et par un grand nombre d'officiers français qui étaient compromis là-dedans, c'était un putsch militaire qu'il voulait faire avec l'armée française en prétendant qu'il y avait la préparation d'un putsch enfin, communiste. C'était pas vrai, rien de semblable. Vous savez, c'est une très vieille astuce. Laissez-moi remonter jusqu'en 1848. En 1848, hein, il y avait eu la révolte populaire du 24 février. Comme vous savez, la bourgeoisie était affolée et on se demandait quel moyen trouver pour ramener la canaille au chenil. Hein. Alors il y a un nommé, Le Drurelin, qui passait pour un radical, qui va s'arranger pour faire revenir les troupes dans Paris, alors que les troupes avaient quitté Paris depuis janvier, en prétendant que c'était une fête de la fraternité. En réalité, il voulait à nouveau des troupes dans Paris afin de faire le coup de porte que fera Cavaignac, tiré à boulet rouge contre les maisons ouvrières. Hein. Alors pour ça, qu'est-ce qu'il va faire? Ben c'est le 16 avril, il y a une grande manifestation à Paris, manifestation où les blanquistes sont là. Les blanquistes, ce n'est pas des communistes, hein. Ce sont des gens qui veulent tout de suite faire des coups de force sans en avoir les moyens. Mais ils sont un tout petit nombre, ils sont une poignée. Mais il y a des communistes qui sont à côté d'eux, un nommé Cabet, mais un communisme qui n'avait rien de semblable avec le marxisme. Et bien ce fameux jour du 16 avril, on va voir M. Le Drurelin pousser de clameurs en disant « Attention, attention, il faut venir les soldats, faire venir les troupes, les communistes sont là !» Laissez-moi vous dire aussi, en baissant la voix, que nous avons vu, les Français, il n'y a pas tellement longtemps, une opération assez similaire. Il s'est passé le 30 mai 1968, et cette fois, c'était plus Le Drurelin, c'était le général de Gaulle. Vous vous rappelez peut-être les journées de mai 1968, hein, il y avait des gauchistes à l'œuvre, et les communistes freinaient. Les communistes étaient là, disant « C'est pas le monde, faites pas de bêtises !» N'empêche que le 30 mai 1968, le général de Gaulle est apparu sur les écrans en disant « Il y a un terrible danger communiste, français debout, etc. » Il y a eu la grande manifestation du 30 mai sur la Concorde et les Champs-Élysées. Eh bien, c'est pareil, voyez-vous, ce qui s'est passé à ce moment-là, ce dont je vous parle, c'est-à-dire juin 1940. On fait semblant de craindre un coup de force communiste afin de faciliter l'opération que l'on prépare. Alors, étant donné la liquéfaction de l'armée française, Reynaud, à penser, et le jeune de Gaulle, qui est sous-secrétaire d'État à la guerre, a pensé aussi que l'on pourrait faire en France ce que la reine Wilhelmine avait autorisé Winckelmann, chef des armées hollandaises, à faire, à savoir se rendre, quoi. Elle lui avait écrit une lettre, la reine Wilhelmine, à Winckelmann. Elle dit, vous allez capituler, capituler en rase campagne, que vous êtes cerné, vous ne pouvez rien faire. Mais votre honneur ne sera pas compromis, parce que moi, reine, je vous couvre et je vous donne l'ordre de capituler. Alors Reynaud pense que c'est une astuce qu'on pourrait faire ça, et de Gaulle le pense aussi. Le gouvernement français pourrait couvrir M. Weygand en disant « Bon, il y a une capitulation puisqu'on ne peut rien faire d'autre, mais l'armée n'est pas déshonorée puisque le gouvernement français en prend la responsabilité. » « Pas question, » dit Weygand, et il s'abrite derrière l'honneur de l'armée. Il dit « Jamais, je ne ferai chose pareille, capituler, c'est déshonorer l'armée, je m'y refuse. » La vérité, c'est qu'ils ne veulent pas d'une opération purement militaire. Ils veulent, le maréchal Pétain et lui veulent, un acte d'État, c'est-à-dire un armistice signé par l'État français qui engagerait l'État et qui permettra de dire, oui, c'est l'État français, l'État républicain qui a capitulé. Le gouvernement a cru devoir quitter Paris le 10 juin et se diriger vers Bordeaux. Et le 11 juin, à Briard, Weygand fait un numéro déclarant ceci. Si vous ne faites pas l'armistice, c'est la porte ouverte à l'anarchie et à la révolution. Dans son arrière-pensée, si on fait l'armistice, c'est la porte ouverte à une révolution, la sienne, celle qu'on appellera la révolution nationale. Le 13 juin, à Cangé, cette fois c'est Pétain qui va faire un grand discours. Et je voudrais vous lire une phrase qu'il a prononcée qui est assez extraordinaire. L'armistice est la condition nécessaire à la pérennité de la France éternelle. Si, je n'arrive pas à bien comprendre. Et puis comme il voit qu'il y a une tentation dans le gouvernement d'imiter la reine Wilhelmine, qui est passée à l'étranger, vous savez, pour maintenir l'esprit de la résistance extérieurement, le voilà qui va menacer, aller jusqu'à menacer, ceux qui songeraient à priver la France d'un gouvernement, j'ai dit, hein, dans une heure de désarroi, ce qui serait la livrer à l'ennemi, ce qui serait tuer son âme même. Pas si audacieux de dire ça. Livrer la France à l'ennemi parce que le gouvernement passerait à l'étranger précisément pour ne pas être soumis à l'ennemi, c'est ce qu'il fait lui-même, c'est ce qu'il est en train de préparer. Et tuer son âme même, mais préserver l'âme, par exemple, de la Hollande, c'est exactement ce que tente de faire Wilhelmine en étant à l'extérieur. Et voici la menace. Pétain va employer des mots très violents. Il va employer le mot émigré, le mot désertion. Il dit, si le gouvernement quitte la France, je considère qu'il a émigré, qu'il est un déserteur, le gouvernement ne sera plus reconnu comme tel. Quant à moi, je vais lentement, quant à moi, je déclare qu'en ce qui me concerne, que hors même du gouvernement, s'il le faut, je me refuserai à quitter le sol métropolitain. hors même du gouvernement s'il le faut, ça veut dire je ferai un contre-gouvernement. S'il y a un gouvernement français qui prétend aller à l'étranger, ou même pas à l'étranger, enfin en Algérie, pour côté de la résistance, moi, à Pétain, je ne bougerai pas et je ferai hors de ce gouvernement un autre gouvernement. Évidemment, c'est assez effrayant parce que l'opinion publique ne sait pas tout ce qui se passe à l'intérieur. Et si on voyait Pétain démissionner, je crois que Reynaud serait comblé d'effroi en disant « Mais qu'est-ce que va penser l'opinion publique ?» Pétain sait ce qu'il fait, il a déjà des connivences. Dans le gouvernement, il y a Chotan qui est en secret pour lui. Quant à De Gaulle, il y a une scène assez ridicule, intéressante tout de même, entre De Gaulle et Weygand. Weygand ne supportait pas De Gaulle. Je vous ai raconté que Weygand s'était opposé jadis aux divisions cuirassées en disant « Ces divisions cuirassées, c'est le bouillon de culture du communisme à l'intérieur de l'armée française. » Et là, il entend le jeune De Gaulle, et Weygand est un personnage vieux, lui dire « Mais enfin, il y a moyen tout de même d'organiser une résistance dans l'Afrique du Nord, et puis nous avons la flotte anglaise. » Alors à ce moment-là, Weygand hausse les épaules, il dit « Enfantillage. Les colonies, la flotte anglaise, mais je ne vous donne pas 8 jours, dit-il à De Gaulle, je ne vous donne pas 8 jours pour que les Anglais commencent à négocier avec le Reich. » Le 14, Pétain a donné, on va arriver à Bordeaux, hein, Pétain a donné rendez-vous à Bordeaux le matin, avant toute réunion du Conseil des ministres, il a donné rendez-vous à Weygand d'une part, Darlan d'autre part, et Boutillier, troisièmement. Boutillier, c'est l'homme des finances, et on se demande pourquoi, je ne peux pas vous l'expliquer, on se demande pourquoi Pétain l'avait choisi pour ses confidences. C'était quelque chose de très étroit, ça va se passer au Grand Café, en face du Grand Théâtre, j'ai été assez longtemps bordelais pour me rappeler, le Grand Café c'est là, et dans une salle du fond, il y aura ces 3 militaires, Pétain, Darlan, Weygand, et ce civil, qui s'appelle Boutillier, qui disent, on ne sait pas quoi, je crois que c'est assez facile à deviner, c'est le bloc des non-partants. Hein, il y a des gens qui veulent partir, il y a Lebrun qui en parle, il parle tout le temps de l'Algérie. Il y a Herriot qui en parle moins, il y a Jeannet qui en parle un peu, il y a Reynaud qui en parle beaucoup. Alors ça, c'est le groupe de ceux qui disent on va tenir ferme hein, et on les empêchera de partir. C'est dans la nuit du 14 au 15 juin qu'arrive à Bordeaux un personnage nouveau qui s'appelle Laval. Alors pour autant, je voudrais vous apporter une citation que j'ai trouvée dans l'illustration du 30 novembre de cette même année 40, d'un nommé Georges Suarez, qui a écrit ça, pas André Suarez, hein, Georges Suarez, qui sera fusillé à la Libération. Eh bien, sans ce numéro de l'illustration du 30 novembre 40, il y a ceci. Laval aura tenu le premier rôle dans les événements qui ont provoqué l'arrivée du maréchal au pouvoir. Alors, il faut regarder qu'est-ce qu'il va faire ce père Laval. Je dois vous dire que je l'ai vu, c'est la seule fois que je l'ai vu où je lui ai parlé. C'était le 16 au matin. Je connaissais bien, j'étais mon professeur à Bordeaux, hein. Je connaissais bien Marquet depuis des années. Nous étions assez séparés parce qu'il était socialiste dissident et moi pas. Mais en fait, je voyais de temps à autre et j'étais très content de regarder du plus près possible ce qui se passait, étant donné que les événements étaient énormes. Alors j'étais, je ne sais plus sous quel prétexte, j'étais venu à la mairie vers 11h du matin, ce jour-là, le 16. Marquet sortait de son bureau, descendait l'escalier, que je montais moi-même. Alors comme nous nous croisons dans l'escalier, il est à côté de Laval, il en prend prétexte de dire « Ah, mon cher président, dit à Laval, je vous présente un jeune professeur, Guillemin. » Bon, c'est tout, j'ai eu Laval devant moi un instant. Il m'a fait tout de même une curieuse impression, hein. Il était fripé. Pourtant, il avait passé la nuit, paraît-il, à l'hôtel Splendide, où on lui avait réservé une chambre. Mais il avait, j'ai une dernière impression d'avoir dormi habillé. Son col blanc n'était pas blanc, et sa fameuse cravate blanche n'était pas blanche non plus. Mais ce que je dois vous dire, au risque de scandaliser, c'est que cet homme ne m'a pas fait de mauvaise impression. Il m'a serré la main une seconde, il m'a regardé. Quand il vous regardait, il vous regardait. Je veux dire qu'il y avait une espèce d'humanité chez cet homme. Il va faire des choses que je trouve abominables, hein. Il ne fera pas la milice, c'est Pétain qui fera la milice. Mais enfin, il fera des choses tout de même terribles, il va dire « je souhaite la victoire allemande ». Je voudrais appeler votre attention sur un point très important, la comparaison entre Laval et Pétain. Laval, c'est un type d'abord qui veut se venger, c'est certain. Il a une revanche à prendre contre Daladier, qu'il appelle ce fumier, parce que Daladier l'a écarté du pouvoir depuis le début de l'année 36. Un homme comme Laval, écarté du pouvoir, vous savez, tenu à l'écart par le Front Populaire, il y avait de quoi le mettre furieux. Bon, il veut se venger. Mais deuxièmement, attention, c'est un homme qui n'a pas de doctrine. Il n'a pas de doctrine. La France est dans un merdier. C'est pas moi qui parle, c'est lui. La France est dans un merdier. Alors il va essayer de tirer la France du merdier comme il pourra. Et comme il se croit très habile, il voudrait jouer les Talleyrands. Il l'avouera plus tard. Il dira, j'espérais jouer de l'Allemagne contre l'Italie quand il se défendra et qu'on le fusillera tout de même. Vous savez bien, il expliquera ce qu'il avait voulu faire. Pas de doctrine, simplement essayer de se débrouiller dans une situation infernale. Vous avez compris? Tandis que le père Pétain... C'est pas du tout ça. Il a une doctrine, il a une idée, il sait où il va. Il a préparé lui-même le désastre. Pétain, devant le désastre, c'est une occasion à saisir. Parce que Laval, c'est un mardier dont il faut tirer la France. Alors c'est la journée du 16 qui va être la journée décisive. C'est justement 16 au matin que j'ai vu Laval. Et le père Pétain, si j'ose dire, enfin, va faire son numéro, son deuxième numéro, et cette fois qui est un numéro d'ultimatum. Au début de l'après-midi, au Conseil des ministres, il va lire un texte. C'est curieux parce que quand on va l'interroger à son projet, on lui dira « Qui avait rédigé ce texte ?» On me l'avait apporté, dira-t-il. Oh, je suppose que c'était Laval. Il lit un texte, en amenant un peu. C'est un texte assez extraordinaire dont je vais vous lire la partie centrale. Les délibérations quotidiennes du gouvernement m'apparaissent comme de pures manœuvres dilatoires aboutissant à l'abdication définitive de la souveraineté française. Énorme quand on y réfléchit. Aboutissant à l'abdication définitive de la souveraineté française. Justement, ce que voudrait Lebrun, c'est garder la souveraineté française intacte, puisqu'il a peur que l'Allemagne envahisse totalement la France et que le gouvernement français serait à l'abri de l'influence allemande en étant de l'autre côté de la Méditerranée. Et c'est ce que lui, Pétain, ose appeler l'abdication de la souveraineté française que prépare le gouvernement, alors que c'est lui qui la prépare. Et il annonce à la fin de son discours, reposant son papier et restant debout, « Je vous donne ma démission ». Affolement, vous savez, vraiment affolement. Vous l'avez déjà dit, il y a Chautemps et plusieurs autres qui sont pour lui. Il y a Reynaud qui se dit « L'opinion publique ne comprendra pas, je vais être désavoué par le maréchal si je suis, par l'opinion, si je suis obligé d'avouer que le maréchal a démissionné parce qu'il n'est pas content de moi. » Alors il va se tirer d'affaire, sans noblesse, vous savez, sans noblesse, le Reynaud. Il va refiler le pouvoir au maréchal. Le maréchal n'est pas très satisfait parce qu'il aurait bien voulu que ce soit le gouvernement Reynaud qui demande la capitulation. Mais il ne le fera pas. Il dit « Monsieur le maréchal, je vous donne ma démission, je donne moi ma démission, c'est vous qui allez organiser le prochain gouvernement. » Mais, ce même Reynaud, qui avait dit « Moi, je suis pour la résistance. Je suis pour qu'on parle en Algérie. Je suis pour qu'on continue le combat. » Va dire au maréchal « Écoutez, monsieur le maréchal, voilà, je vous cède la place et je vous demande en compensation de bien vouloir me nommer ambassadeur à Washington. » Ça manque un peu de dignité. On sait ce qui se passe. C'était sa maîtresse, Madame de Porte, que j'ai vue plusieurs fois. Je la voyais au Splendide, poussait des cris du reste. Enfin, tout le monde regardait Madame de Porte, une espèce de harpie. Hein. Et je crois qu'il était terrifié par Madame de Porte. C'était elle qui le poussait à abdiquer en disant « Il faut une compensation, sa compensation sera à Washington. » Il n'aura pas Washington et puis Madame de Porte se tuera rapidement d'un accident de voiture. Toujours dit, la place est libre. Alors le maréchal prend le pouvoir et Lebrun est étonné, il n'aurait pas dû l'être, de la facilité avec laquelle va se constituer le prochain ministère. Il était tout près du ministère. Pétain avait sa liste dans sa poche. Si bien que c'est en fin d'après-midi que Reynaud a démissionné et quelques heures plus tard, Pétain s'amène chez Lebrun et lui dit « Monsieur le Président, voilà la liste de nos ministres. » Tout était prêt. Je dois vous dire que c'est l'entrée en force des militaires au pouvoir. C'est assez curieux, c'est au moment d'un désastre que les militaires sont les plus brillants. Alors vous y voyez Pétain d'abord, qui est le maréchal, vous y voyez Darlan, vous y voyez Végan, vous y voyez un autre général qui s'appelle Colson, vous y voyez un autre général qui s'appelle Pujot. Pujot aura l'air et Colson sera ministre de la guerre. Enfin, une admirable pléiade de militaires qui vont honorer la France. Ça y est, le gouvernement est constitué et dans la nuit même, ce gouvernement va naturellement demander l'armistice. C'est donc dans la nuit du 16 au 17 juin que Pétain, qui est devenu président du Conseil, fait par l'intermédiaire de l'Écurica, qui était l'ambassadeur de Franco auprès de lui, fait les premières avances en vue d'un armistice. Il faut que l'on sache à quel point Hitler en a été rempli de joie. Il a bondi de joie positivement, bondi de joie. Parce que c'était une chose tellement invraisemblable ce qui se produisait. C'était la merveille des merveilles. Il avait dit à Rauschning, vous vous rappelez, la fameuse histoire de Rauschning, Hitler m'a dit, c'est le plus invraisemblable qui sera le plus certain, lui avait-il dit. Et en effet, c'est invraisemblable ce qui se passe. Est-ce que vous en rendez compte? Regardez les nations qui avaient été jusqu'à présent écrasées par Hitler successivement, prenons-les, il y a eu Tchécoslovaquie, il y a eu la Pologne, il y a eu le Danemark, il y a eu la Norvège, il y a eu Luxembourg, il y a eu la Hollande, il y a eu la Belgique. Dans toutes ces nations, tout, le gouvernement était parti à l'étranger. Hitler n'avait obtenu jamais, nulle part, qu'un gouvernement subsiste sous son contrôle. Seul en France. Et avec qui? Avec le personnage le plus prestigieux. Un monsieur qui s'appelait le maréchal Pétain, qui était soi-disant le vainqueur de Verdun. Alors ce qu'Hitler n'a pas obtenu de tous les autres gouvernements qui sont partis à l'étranger, il l'obtient du maréchal Pétain. C'est prodigieux, la reine Wilhelmine avait envoyé à ses sujets, puisque c'est le mot, un message radio, que lorsqu'elle avait appris que les Allemands n'avaient pas pu trouver, comme Gauleiter, vous savez, ça veut dire comme patron, comme contrôleur général, un Hollandais. Ils avaient été obligés de faire appel à un Autrichien, je crois, qui s'appelait Seyss-Inquart. Alors Wilhelmine avait envoyé un message radio à ses sujets en disant « Hitler n'a pas pu trouver quelqu'un de chez nous pour faire son métier. » Cette ignominie, du moins, nous aura été épargnée, dit la reine Wilhelmine. Ben voyez-vous, cette ignominie n'est pas épargnée aux Français. Parce qu'il est un Français, et même un maréchal, qui allait faire la politique d'Hitler, avec un gouvernement qui n'avait d'existence que par la permission de l'Allemagne, et avec des décrets qui allaient être signés Philippe et contre-signés dans Londres Adolphe. Alors je comprends qu'il soit content. Hein. Savez-vous ce qu'il avait fait ce premier jour, le 17 juin? Il a dit, c'est le cœur serré, je l'ai entendu, j'étais à Bordeaux, j'ai entendu cette voix chevrotante. C'est le cœur serré français que je vous dise qu'il faut cesser le combat. Puis on lui dira tout de suite, mais il ne fallait pas dire une chose pareille. Ça veut dire qu'il faut tenter de cesser le combat, parce que qu'il faut cesser le combat, ça veut dire qu'on accepte d'avance les conditions de l'armistice, quoi qu'elles qu'elles fussent. Oui, s'en est aperçu. Alors à l'officiel, il n'y aura pas qu'il faut cesser le combat, mais qu'il faut tenter de cesser le combat. Mais ce qu'il faut que vous sachiez, c'est les ordres que va donner immédiatement le ministre de la Guerre, qui s'appelle le général Colson. Défense, défense est faite à toutes les forces françaises qui sont encore dans les garnisons, de se replier. Il faut attendre l'arrivée des Allemands, attendre. Et toute infraction entraînera comparution devant les tribunaux militaires. À la suite de quoi, le général commandant de la 18e région va prescrire ceci. Il faut rassembler les armes et les munitions dans un même local, attendre sur place l'arrivée d'ennemis pour remettre ses armes et sortir un coup de fusil, bien entendu. Les officiers qui n'exécuteraient pas ces ordres seront traduits en conseil de guerre. C'est admirable. Alors vous imaginez la rafle de prisonniers et de matériel de guerre que les Allemands vont pouvoir faire. Mais ce qui m'intéresse terriblement, capitalement, parce que je l'ai vu, c'est la jubilation. Complètement déshonorante. Ce mot n'est pas de moi, il est de M. Chauvel, dans son admirable livre qui s'appelle « Commentaire ». Cette joie, cette jubilation complètement déshonorante qui était affichée à Bordeaux par tous ceux qui enfin voyaient la République par terre. Je me rappellerai toujours ce que j'ai vu devant la cathédrale de Bordeaux, c'était le 17 dans l'après-midi, il y avait Philippe Henriot, vous savez, député de Bordeaux, qui était d'extrême droite, qui était entouré d'un groupe de camelots, je les connaissais, de camelots d'Action française, et qui est là, mais venez, mais il n'agit pas. Il était ricanant, jubilant, exaltant, en disant, ça y est, on a gagné. On a gagné quoi? Ben, la République qui est par terre. Et savez-vous que Deloncle, c'est un homme du Xav, quand il va voir qu'effectivement la République est par terre, va écrire à sa femme cette lettre qui a été publiée, enfin la République a renversé et j'y ai eu ma petite part. Oui, ben, ces gens jubilent en effet, mais ils n'ont pas encore tout à fait gagné, parce que la République n'est pas encore tout à fait par terre, et c'est là où on va voir agir avec une grande habileté Laval. Voilà comment il va faire Laval. Hein. Il va essayer de persuader, premièrement, aux républicains qui sont là, qui restent en principe lui aussi républicain, il va leur persuader que c'est une mauvaise idée de partir à l'étranger, qu'il ne faut pas, il faut rester sur sa nationale, il y aura des choses à faire. Et du reste, il a, j'ai envie de vous le dire, mais en baissant un peu la voix, je crois qu'il a une sorte de complice un peu secret en la personne d'Herriot. Autant le Brun aurait voulu partir à l'étranger, pas à l'étranger, puisqu'à ce moment-là, paraît-il, l'Algérie, c'était la France. Bon, il voulait partir pour l'Algérie. Autant Herriot manifestait un peu d'enthousiasme, mais il y a même eu un jour, c'était le 20 juin, où il avait été décidé que le gouvernement allait partir, et déjà des ordres avaient été donnés à la mairie de Perpignan pour accueillir là le président de la République, qui allait prendre le lendemain pour vendre un bateau pour l'Algérie. Herriot n'avait pas bougé. Tandis que Jeannet, qui était président du Sénat, avait cru que c'était vrai qu'on partait. Il était même parti jusque vers Toulouse, et on le rappellera, parce que Laval avait agi avec beaucoup d'habileté, avait obtenu du maréchal qu'il donne des instructions aux membres de son gouvernement en disant « mais ne partez pas, vous savez, mais rien ne presse. Les Allemands n'ont pas encore franchi la Loire », ce qui était absolument faux. Les Allemands approchaient. Mais il fallait à tout prix retenir le vin. Comme Lebrun avait l'intention de partir, il va voir surgir dans son bureau vers 14h30 le 21 une horde. Il y a Laval qui est à la tête et il y a M. Bonnet, vous savez, ministre des Affaires étrangères Bonnet, dont je vous ai indiqué sa forme de comportement. Il y a Marquet aussi. Et ils vont se comporter, ces types. Vous savez, dans le bureau du père Lebrun, qui n'a jamais entendu de choses pareilles, ils vont l'engueuler. On va voir Laval qui va lui dire, écoutez, si vous prétendez partir, ben vous ne remettrez plus jamais les pieds ici en France, jamais, parce que vous serez un déserteur et nous, on va organiser un gouvernement contre vous. Interloqué, vous avez été effrayé, puis alors les réponses que vont faire les Allemands aux propositions à l'armistice, qu'est-ce que vous demandez? Les Allemands, qui se sont attendus avec Mussolini, ont dit, on ne va rien demander immédiatement, on va demander simplement la cessation des hostilités, on ne parlera pas du contenu de la paix. Il a dit à Mussolini, calmez-vous, Mussolini nous avait attaqué, je voulais vous le dire, le 10 juin, Mussolini avait sa arrière-pensée, il voulait prendre la Tunisie, la moitié de l'Algérie. Pas le dire, hein, pas le dire maintenant. Et au contraire, dans l'armistice, dire on ne touchera pas à la flotte française qui maintiendra la sauvegarde des intérêts coloniaux de la France. Je suis sûr que Pétain lui-même sait bien qu'il y a une menace sur la flotte et sur les colonies. Mais il veut faire croire, il est trop content de faire croire, ou à ceux qui l'entourent, aux membres du gouvernement, vous voyez, il ne demande rien de très grave. Alors maintenant, il s'agit d'obtenir ce que l'on voulait, c'est-à-dire le renversement de la République. Ben, ça sera à pas feutré. Là, je vais vous donner une phrase qui a été écrite par Dumoulin de la Bartette, chef de cabinet de Pétain, qui racontera ceci. « Je n'aurais rien pu faire, m'a dit Pétain, c'est Dumoulin qui parle, rien pu faire sans Laval. Il a été inouï. Il a d'abord retenu les gens qui voulaient fuir, puis il les a dirigés sur Vichy bien sagement, bien gentiment. » En effet, qu'est-ce que Laval fait dire aux parlementaires qui sont là nombreux? Ben, vous savez, il faudra modifier la Constitution. Alors, pour modifier la Constitution, il faut ce qu'on appelle une Assemblée nationale. Ça veut dire réunion à la fois de la Chambre et du Sénat. puisque le maréchal a décidé de s'établir à Vichy, mon Dieu, pourquoi pas? C'est à Vichy que tout le monde doit se réunir. Alors venez là, et puis, gentiment, familièrement, on modifiera la Constitution française par des pleins pouvoirs. Ce mot plein pouvoir, vous savez, ça ne terrifie pas les députés, ils sont habitués à ça. Ils sont dans des pleins pouvoirs à Dieu sait combien de gens. Poincaré les a eus, Daladier lui-même les a eus, les pleins pouvoirs. Alors ça ne paraît pas terrifiant de donner de plein pouvoir à Pétain, mais c'est qu'ils ne savent pas vers quoi ils vont, ces malheureux députés et sénateurs. Pourtant, ils auraient dû être avertis par un discours que le 8 juillet, Laval avait prononcé, en disant ceci, la démocratie parlementaire a perdu la guerre. Ce ne sont pas les généraux, hein, les généraux, ils sont pour rien. C'est la démocratie parlementaire qui a perdu la guerre. Elle doit donc, disait Laval, le 8 juillet, céder la place à un régime autoritaire et hiérarchisé. Ça en était assez clair. Hein? Assez clair, mais M. Herriot va arranger les choses, puisque le jour où on va voter, c'est-à-dire le 10 juillet au matin, le président Herriot va faire un discours parlant de sa vénération, vous entendez bien, la vénération à l'égard du maréchal, et disant, prenons garde de ne pas troubler l'ordre qui s'établit sous son autorité. Ça veut dire blanc-seing au maréchal Pétain pour ce qu'il doit faire. Alors ça y est, on lui vote les pleins pouvoirs pour la modification de la Constitution. Savez-vous quel chiffre? Il y avait 649 votants, et 569 comptaient oui. Il n'y aura que 80 opposants. Et c'est la chambre du Front Populaire, il ne faut pas l'oublier. C'est la chambre de 36. Mais cette chambre de 36 qui avait été tellement gentille pour accepter tout ce qu'on lui avait réclamé, la voilà maintenant qui, dans une immense majorité, va dire plein pouvoir au maréchal Pétain. Il est vrai qu'elle ne sait pas ce que le maréchal prépare. Alors là, il faut que nous regardions de près ce qui va se passer. Le 10 juillet, on lui vote les pleins pouvoirs de modification de la Constitution. Et voilà que le 11 juillet, à l'officiel, soudain, il y a un acte constitutionnel numéro 1 que voici. Nous, Philippe Pétain, maréchal de France, déclarons assumer les fonctions de chef de l'État français. Tiens, c'est pas autre chose. C'est tout à fait différent. Le 17, il avait annoncé à l'opinion publique, français, à ce moment-là, on ne disait pas français, à l'appel de Monsieur le Président de la République, j'ai pris les pouvoirs, à l'appel de Monsieur le Président de la République. Il n'y a plus maintenant de Monsieur le Président de la République, il y a j'assume les fonctions de chef de l'État français. Bon, Debrun était chef de l'État, il n'y avait encore rien dans ces mots qui soit redoutable, mais il y avait un article constitutionnel numéro 2, je vais lentement, qui déclarait abroger la loi constitutionnelle du 25 février 1875. Et les journaux avaient reçu l'ordre de ne pas reproduire cette loi constitutionnelle du 25 février 1975, qui est tout simplement celle par laquelle la République est établie en France. Par conséquent, sournoisement et clandestinement, la République était renversée. Définition de Vichy, définition du maréchal, et bien c'est Bernanos qui leur a donné la meilleure. Vichy, la révolution nationale, et Pétain, c'est le triomphe d'une minorité impopulaire qui depuis 20 ans cherchait en vain électoralement sa chance et qu'il a trouvé dans le désastre de la nation.